Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Popcorn Salé. Je suis Margot et ce soir je suis en compagnie de Costal.
Bonsoir.
Et Nora.
Bonsoir.
Juliette.
Bonsoir.
Pauline.
Bonsoir.
Et Arthur.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons commencer par parler de l'actualité économique et démographique de nos salles avant d'enchaîner sur, évidemment, les sorties de la semaine. Et nous parlerons du nouveau film d'Agnieszka Holland, Green Border, bien évidemment de Dali, et nous finirons par La Bête. Alors, nous allons commencer avec le sujet d'actualité, donc qui est d'abord le succès inattendu du film de Jonathan Glazer, The Zone of Interest. Qui voudrait nous en parler ? Arthur.
Oui, alors plus que le succès assez inattendu du coup de la zone d'intérêt qui, alors je vous parle, a je crois dépassé pour sa première semaine, ça c'est un bon chiffre, a cumulé 239 000 entrées et d'ailleurs s'est classé en tête du box-office lors de sa semaine de sortie, dépassant Argyle, le magnifique film d'action, voilà, dont soit Paul soit moi l'avons vu, je vous rappelle, référence à l'épisode précédent. Et ça montre aussi quelque chose, je trouve, qui est pas mal. Alors on pourra revenir sur plus en précision sur la zone d'intérêt si vous le voulez derrière, mais on est dans un mois de janvier qui a été quand même un mois de vache maigre en fait pour le box-office français, avec un recul de plus de 8% par rapport au mois de janvier 2023 et même 25% par rapport à la période pré-Covid, mais qui cache néanmoins de belles surprises en fait, parce que c'est un cinéma d'auteur qui s'est beaucoup illustré dans ce début d'année, ce mois de janvier, culminant avec la zone d'intérêt, mais qui cache aussi Pauvre Créature, qui aura obtenu 410 000 entrées à l'heure où je vous parle, et qui se classe aujourd'hui comme le film le plus rentable de l'année 2024. Alors, bien sûr, on est au tout début. On peut aussi parler de May December, qui en France aura eu plus de 180 000 entrées, ou encore d'Anatomie d'une chute, qui engrange quasiment 120 000 entrées depuis début 2024 et l'annonce des nominations aux Oscars et aux Césars. Donc c'est un box-office assez particulier où les films américains sont en grand retrait. Argyle, qui était le premier grand blockbuster américain avec un budget avoisinant les 200 millions comme il en est l'habitude, a fait un four monstrueux, et le cinéma américain persiste dans le box-office à peine grâce à Wonka, qui est sorti déjà il y a plus de 6 semaines et qui a été en fait le meilleur film américain sorti l'année dernière, donc fatalement il est encore dans la liste, mais très en deçà. Et c'est intéressant, c'est qu'on a un complet ratage en fait de tous les blockbusters américains qui sont soit des échecs, soit qui ne sortent plus. Une véritable panne sèche à Hollywood qui est à la fois le fait des mauvais résultats de l'année dernière, même des 2-3 années précédentes, plus la grève des scénaristes qui a retardé, bouleversé, changé les programmes et tout ça. On va voir Dune 2 dans un mois qui va être le prochain gros film américain qui peut éventuellement à nouveau être un gros succès au box-office. Mais pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour plein de petits films qui émergent. Et la zone d'intérêt, on faisait partie parce que ce serait sorti en plein mois de janvier entre 3 blockbusters. Sans doute que ça n'aurait pas eu le même écho, mais je suis très content que, même si moi je n'ai pas du tout aimé ce film-là, je suis très content que ce film-là ait fait quasiment 300 000 entrées, terminera quasiment à 500 000 pour un film d'1h30 sur la compte concentration et un film très dur quand même d'accès. C'est vraiment un très très beau score.
Est-ce que Enora, tu aurais une piste d'explication à apporter sur la raison du succès de ces films plutôt auteurs ?
Je ne sais pas si c'est vraiment l'explication principale, mais je pense que le fait que les deux aient eu des prix dans des festivals internationaux, genre il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, Pauvre Créature, et le Grand Prix pour la Zone d'Intérêt, je pense que ça a pu attirer certaines personnes. Et après, si les gens ont aimé, etc., ils en ont parlé à leur entourage et par le bouche à oreille, ça a marché. Je ne sais pas si Juliette, t'es d'accord ?
Oui, moi, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à rajouter. Je pense que c'est aussi dû... Enfin, il marche bien, mais aussi, il marche extrêmement bien relativement au fait que, comme Arthur le disait, en fait, les blockbusters américains se cassent la gueule, quoi. Et ça, c'est aussi juste dû au fait que c'est pas très bien, quoi. Enfin, il me semble que c'était notre conclusion sur Argyle la semaine dernière. Même, je sais pas. Enfin, moi, ça me rend un peu anxieuse. Non, j'ai d'autres choses qui me rendent anxieuse dans la vie plutôt que la survie des films américains au box-office. Mais globalement, même sur la sortie de Dune 2, moi, je suis assez étonnée. Il sort vraiment ce mois-ci. J'ai encore pas du tout vu de bande-annonce, pas énormément d'affiches.
Il sort
en février.
Ouais,
février.
Ouais,
c'est J'ai vu au UGC, il n'y a pas de pub dans le métro, il n'y a rien. Du coup, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est aussi... Mais Arthur a l'air d'être plus en forme avec moi.
Juste pour Dune, le film devait sortir en octobre, mais pendant la grève des scénaristes. Donc je pense qu'ils ont cramé un budget monstre. Le budget monstre de la com, ils l'ont cramé en septembre, août septembre. Et qui se retrouve un peu avec plus grand chose à montrer. C'est assez drôle d'ailleurs, ils ont sorti deux bandes d'annonces, une en juillet, une en août, en mode ça va bientôt sortir. Et comme des cons, c'est pas sorti. Et ils ont dû rebricoler une troisième bande d'annonces un peu fait de bric et de broc en janvier qui passe quasiment inaperçue. Mais ils n'ont pas non plus des sous extensibles pour vendre le film. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, de vendre Dune 2.
Mais ça, c'est à cause de la grève des scénaristes, parce que j'imagine qu'au moment où ils ont monté les bandes annonces, le film était déjà terminé.
Oui, mais c'était la grève des. Ouais, c'est la grève des comédiens du coup qui ils assuraient pas la promo, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des films comme The Creator qui sont complètement plantés, parce que y a personne qui assurait la promo de ces films là.
Enfin, c'est effectivement, je pense que ces films sont les deux d'une grande qualité. Du coup, je parlais évidemment de La Zone d'Intérêt, de Pauvre Créature, et pas de Argyle, mais je pense aussi que c'est lié au fait que comparativement au blockbuster américain, ça fait aussi exception. Enfin,
oui, il n'y a pas grand chose d'autre à voir en salle, quoi. En soi,
concrètement. C'est par défaut, quoi.
Bah, pas que, mais je pense.
Et puis, il y a peut-être aussi le facteur de la curiosité, parce que c'est des films, quand même, La Zone d'Intérêt, ça parle des camps de concentration. C'est en général des sujets qui mobilisent un peu l'opinion publique, et je pense qu'ils ramènent les gens dans les salles, ne serait-ce que pour voir comment ça a été traité, comment ça a été montré. Pour dire aussi qu'on l'a vu, parce que moi je m'attendais pas à grand chose, j'ai été déçue, mais je m'étais dit que c'était important de l'avoir vu quand même et de me faire mon avis. Donc peut-être que ça ramène aussi certaines personnes comme ça dans les salles.
Oui, même par éducation. Et je pense qu'on peut aussi parler du coup du fait que au-delà qu'on a quand même, enfin du fait qu'on a quand même des chiffres de fréquentation en salle plutôt bas. Eh bien, c'est la grande nouvelle pour les cinéphiles cette semaine, et tout Twitter en est inondé. Les passes UGC illimitées, enfin UGC MK2 illimitées, augmentent leurs tarifs. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à cette information d'une grande tristesse. Margot, par exemple, tu n'as pas encore parlé.
Bah écoutez, je pense que comme nous tous, je suis effondrée d'apprendre cette nouvelle qui me brise le cœur. Non, au-delà de ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'on peut quand même leur accorder le fait que, apparemment, selon le mail qu'ils nous ont envoyé, depuis 2016, ils n'avaient pas augmenté les tarifs.
Comme par hasard, ça tombe sur nous.
Comme par hasard, ça tombe l'année où je souscris cet abonnement. Bon, voilà. Non, mais après, je pense que malheureusement, c'était quand même un petit peu inévitable. Enfin, je veux dire, si ça fait 7 ans, 8 ans qu'ils n'ont pas augmenté les tarifs, enfin, je veux dire, au vu de l'inflation, etc., bon, c'est bien malheureux pour nous, mais je pense que c'est un petit peu inévitable. Et puis non, mais ce que ça veut dire aussi, cette augmentation des tarifs, et puis surtout la multiplication des offres, surtout j'ai l'impression pas mal en direction de la jeunesse aussi, bon bah clairement c'est une stratégie pour chercher à atteindre d'autres publics, et peut-être d'atteindre une plus grande rentabilité de ces offres là qui sont plus modulables, parce qu'en fait pour l'instant les passes UGC, je pense que c'est quand même vraiment, ça s'adresse vraiment à un public très cinéphile qui va vraiment beaucoup au cinéma. Enfin, je n'ai pas les chiffres, mais peut-être plusieurs fois par semaine. Et donc là, avec ces offres qui s'appliquent genre uniquement la semaine, uniquement le week-end, je pense qu'il y a une vraie volonté de diversifier les publics dans les salles. Après, est-ce que ça va marcher ou pas ? Seul l'avenir nous le dira. Que quelqu'un veut faire un pronostic sur le futur.
Du coup, pour contextualiser, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc augmenté le prix des tarifs des UGC duo, jeune et, normal. Enfin, normaux.
Pas normal.
Le pluriel. Bref, ça de 2 euros chacun, je crois que le UGC duo c'était de 3. On peut quand même noter que du coup ils auraient peut-être pu faire un geste envers les jeunes, et parce que du coup, oui, si on augmente de 2 euros le tarif qui est moins cher, ça veut dire qu'en pourcentage on l'a plus augmenté que celui qui est plus cher. Vu que bon, voilà, bon, c'est vraiment un détail en vrai. Enfin, voilà, mais ce qu'ils ont fait surtout, c'est qu'ils ont envoyé un mail en disant ouais, regardez, c'est super, on vous a créé plein de nouvelles offres qui restent en dessous de 20 euros. Elles,
et à la fin. Ils nous disent, mais on augmente votre abonnement de 2 euros.
Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a des offres juste pour le week-end, juste pour la semaine, pour aller voir l'opéra et pour y aller en famille aussi, je crois. Ouais. Voilà, que de réjouissance. Et donc voilà, c'est, je pense, une stratégie qui marchait pas. Moi, en fait, j'avoue que moi, je serais contente que cette offre augmente si c'est pour mieux répartir les recettes envers tous les cinémas qui sont partenaires, parce que c'est le passe UGC et MK2, donc UGC, je crois qu'en province, désolée d'utiliser un mot de parisienne, mais en province, y a que, on peut aller que au GC avec cette carte-là. Mais par contre, à Paris, il y a beaucoup de cinémas indépendants qui sont partenaires de cette carte-là. Et en fait, eux, je crois qu'ils sont rémunérés extrêmement peu quand on utilise cette carte-là. Donc moi, j'aimerais bien, je pense que ce n'est pas le cas, mais j'aimerais bien que cette augmentation-là, elle arrive aussi à juste mieux rémunérer les cinémas indépendants et que surtout l'offre du GC puisse se maintenir sur tous les petits cinémas parisiens, même les cinémas qui font des films de patrimoine, enfin vraiment tous les cinémas indépendants que je veux soutenir aussi et auxquels en vrai on va beaucoup et c'est aussi l'intérêt de cette carte-là, quoi.
Et tout de suite, nous allons passer donc au film de cette semaine. Le premier de ces films, c'est Green Border de la polonaise Agnieszka Holland, un film en plein dans l'actualité. Kenora va tout de suite nous présenter.
Oui, alors Green Border, c'est un film très long, un peu épopée, qui raconte la migration d'une famille syrienne qui veut se rendre en Suède. Et pour cela, ils vont arriver en Biélorussie et devoir passer la frontière pour se rendre dans l'Union européenne. Donc c'est la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Et on va donc les suivre, mais on va aussi suivre d'autres personnages comme les gardes-frontières polonais et biélorusses un peu, et des activistes polonais qui vont œuvrer en faveur des réfugiés. Pauline, qu'en as-tu pensé ?
Alors moi, je ne vais pas être objective du tout parce que je suis sortie du cinéma il y a 2 heures et j'ai été vraiment... ce film m'a beaucoup touchée. Je pense que... qu'il est filmé, c'est un sujet très dur, mais qui est abordé avec une grande humanité et qui surtout ne fait pas de la violence une fin en soi. C'est-à-dire que dans son traitement de la violence, il n'y a pas une forme esthétique ou cathartique, c'est vraiment plus presque un travail de documentaire, en fait, de nous montrer qu'est-ce qui se passe. La violence reste assez insoutenable et en même temps, elle n'est pas non plus... il y a tout un tas, je trouve, de procédés filmiques qui permettent de décentrer un peu le regard pour nous empêcher de voir des scènes trop insoutenables, même si le film reste... Enfin, moi, je l'ai trouvé un peu dur à voir sur pas mal de scènes. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi, mais je sais pas, tu as peut-être un avis là-dessus, qu'ils ont utilisé le noir et le blanc. Je me suis dit que c'était peut-être justement pour... enlever un peu de violence ou faire en sorte que sur certaines scènes, on voit moins dans le détail certaines choses. Et j'ai trouvé que c'était assez élégant. Et je parlais d'humanité tout à l'heure. Une grande force du film, c'est qu'il montre très très bien les visages. On a vraiment tout un travail de gros plans sur des visages, ce qui tranche un peu dans la manière de traitement de sujet. Quand on parle des réfugiés, là, c'est pas des chiffres, c'est vraiment des personnes derrière, et c'est extrêmement touchant et extrêmement bien fait. Je sais pas si tu me rejoins.
Non, je suis plutôt d'accord avec toi, et pour le noir et blanc, j'avais à peu près la même interprétation. J'ai pensé aussi que certes, c'était à la fois pour atténuer la violence, mais aussi peut-être les couleurs et les différences entre les gens. Et le noir et blanc, symboliquement, ça souligne un peu aussi un contraste. Donc, comme le film montre ce qu'il y a à la fois de meilleur et de pire chez l'être humain, et la douleur d'un tel périple, je me suis dit que c'était peut-être lié à ça. Après, je pense que c'est ouvert à plein d'interprétations. Et c'est drôle parce que le film s'appelle Green Border, donc il y a le nom d'une couleur. Et pourtant, c'est en noir et blanc. Et d'ailleurs, au tout début, donc la Green Border, en fait, c'est la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, qui est en fait une forêt où vont se cacher les réfugiés. Et au tout début du film, on voit cette forêt en couleur. Et ça passe progressivement à un noir et blanc qui va s'installer durant les 2h30 que dure le film. Donc j'ai trouvé aussi que c'était un très beau film touchant, qui mettait, comme tu as dit, des visages... qui humanisait les réfugiés qu'on ne voit peut-être pas assez. Après, je l'ai trouvé assez inégal parce qu'il est traité en plusieurs parties selon les personnages et je trouve que chaque partie n'est pas filmée ou de la même manière et pas... c'est assez inégal. Et puis surtout, il est très très long, il dure plus de 2h30. Mais c'était quand même pas chiant et cette durée, elle sert quand même à montrer toute la douleur éprouvée par les réfugiés et la longueur aussi, parce qu'à chaque fois, il passe d'une frontière à l'autre en revenant ensuite en Biélorussie, au point de départ, etc. Et j'ai trouvé intéressante aussi la perspective d'ouverture à la fin, quand on voit le contraste avec les réfugiés ukrainiens un ou deux ans après qui doivent passer en Pologne, et qu'on voit que l'accueil qui leur est réservé n'est pas du tout le même que celui qui est réservé aux réfugiés du Moyen-Orient et d'Afrique. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en as pensé de cette ouverture.
Bah, je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça très fort comme ouverture, parce que non seulement c'est un message politique, mais aussi je pense que c'est une manière un peu de montrer à tout le monde qu'il y a une réalité, des réalités de fait différenciées entre les différents réfugiés. Et c'est très très fort. Et c'est une belle manière de terminer le film aussi, parce que je me demandais comment elle allait réussir à en finir, parce que c'est une histoire un peu sans fin finalement. Ouais, c'était très joli. Et je te rejoins sur la durée, effectivement. C'est vrai que le film n'est pas... Je trouve qu'on ne s'ennuie pas, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu éprouvant. On se dit, bon, ce serait bien que ça débouche sur quelque chose.
Oui, et puis cette ouverture, je l'ai trouvée bien, parce que c'est marqué dans l'actualité comme la crise des réfugiés, de toute façon. Et aussi, à la toute fin, on voit un garde-frontière qui se fait interpeller par une activiste qu'on a déjà croisée quand ils aidaient les réfugiés syriens, et qui lui dit « Ah bah, t'aides pas les Ukrainiens comme tu aidais les Syriens ». Donc j'ai trouvé ça bien de voir ça. Et malgré tout, même si y a un traitement différencié, on voit que ce personnage de garde-frontière a quand même évolué dans sa perception des migrants syriens, parce qu'à un moment, quand les Syriens sont dans un camion pour partir de Pologne, il les voit dans le camion, mais il va rien dire, il va les laisser passer. Et j'ai trouvé ça très beau aussi, voilà.
Moi, j'ai juste une question. C'est une fiction, du coup, c'est ça ?
Oui. Ça peut faire documentaire, mais c'est une fiction.
Okay. Et enfin, si vous voulez pas répondre, mais du coup, enfin, moi, ça m'étonne de faire une fiction sur ce thème-là quand on pourrait faire un documentaire. Est-ce que vous voyez un avantage à faire de cette histoire-là une fiction ? Enfin, est-ce qu'il y a une plus-value
Moi, je me suis demandé si c'était pas peut-être par pudeur pour ces familles, parce qu'on montre quand même des choses vraiment horribles. Et je me dis que peut-être plutôt que d'aller interroger des gens qui ont vécu ça et tout, passer par la fiction en disant que de toute façon, c'est des trajectoires qui existent. Et je pense que même si c'est une fiction, c'est des choses que des gens ont réellement vécues. Enfin, je pense que tout ce qui est montré dans le film est plus ou moins vrai. Donc
Doit être très documenté, et moi je sais pas si c'est entré en jeu, mais je pense que c'est aussi beaucoup plus facile à faire, parce que faire un documentaire ça exige plusieurs années, il aurait fallu être sur place. Je pense que la Biélorussie c'est un peu une dictature, donc je pense que ça aurait été compliqué de filmer là-bas, donc je pense que c'était aussi une histoire de faisabilité.
Il a été filmé où, le... Enfin, si
tu sais. Pologne, parce que la réalisatrice est polonaise, donc c'est sûrement en Pologne, Biélorussie aussi. Voilà. Au début, on les voit partir de Syrie en avion, mais je pense que ça n'a pas été filmé là-bas.
Eh bien, nous allons tout de suite passer au film dont on a le plus parlé de la semaine. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à échapper aux bandes-annonces multiples de Dali, avec beaucoup de A, mais... En tout cas, pas nous. Et c'est Costal qui va nous le présenter.
Donc oui, Dali, avec autant de A qu'il n'y a de personnes dans cette pièce, finalement. C'est l'histoire est assez simple, hein, parce que c'est un film qui dure 1h20, je crois, qui est un beau contraste avec les 2h40 des deux autres films. Mais donc c'est l'histoire d'une journaliste qui essaye d'interviewer Dali, mais qui galère plus ou moins. Et donc Dali est joué par 5 comédiens. 6.
C'est pour ça qu'il y a 6 A.
Ah. Oh, waouh!
Je ne savais pas! Mais Nora, tu sors toutes tes anecdotes.
Donc, c'est joué par 6 comédiens qui alternent. Et donc, c'est à la fois un hommage et une comédie loufoque. Mais pas des mots. Donc, peut-être que Juliette, tu veux en parler?
Allez, il faut se lancer. Moi j'ai beaucoup aimé, ce qui est assez étonnant parce que je suis vraiment une des plus grosses hateuses de Quentin Dupieux que la Terre ait jamais connue. Non, mais globalement, tout le monde avait été hyper positif sur Yannick, et moi je trouvais vraiment que c'était un mauvais film. Et là, je trouve que par contre c'est vraiment réussi. Je trouve que notamment le jeu des comédiens qui jouent Dali, à la fois je trouve que ce pari-là est vachement bien tenu et qu'il y a comme un peu une continuité dans leur jeu que je nuancerai pour Gilles Lellouche. Qui a une manière un peu plus différente de le jouer. Mais en même temps, ces mimiques sont très intéressantes. Mais c'est vrai que, en fait, c'est juste incroyable d'entendre Edouard Baird faire Dolly. Je me permets de refaire.
C'est le meilleur, je trouve.
Ah oui. Ouais, c'est, moi, je l'ai trouvé vraiment éblouissant. Et vraiment, ça fait plaisir de, non, mais de voir des acteurs qui font. J'avoue ma passion pour Edouard Baird. À cette
désolé,
antenne, c'est ça.
Mais ta moustache ne peut pas, ne fait pas le poids.
Ouais, c'est ça.
Mais elle a frisé un peu. Si
j'ai une moustache bizarre dans deux mois, c'est beau.
Non, mais en fait, je trouve ça vraiment rafraîchissant de voir un comique qui repose vraiment sur le jeu des acteurs, de voir des accents qui sont pas problématiques non plus, parce que bon, les accents, ça peut être vachement problématique. Et là, je trouve que ça évite plein d'enjeux comme ça. Et je vais être assez courte, mais je crois que ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est que j'ai pas vraiment du tout une grande connaissance de Dali, je connais un peu ce que tout le monde connaît, voilà, très, très rapidement. Mais en fait, j'ai l'impression que ce film retranscrit un peu, enfin, si Dali avait fait un film aujourd'hui et était à notre époque, il aurait fait ça un peu. Enfin, j'ai l'impression que ce film arrive bien à retranscrire, disons, l'esprit de son œuvre sans être un biopic vraiment... étape par étape, qui aurait vraiment pas fait sens du tout. Là, je trouve que ce film, tout en étant drôle, rafraîchissant, et encore une fois, Dieu merci, des films qui font 1h18 existent. Mais... Et ça n'enlève pas de sa qualité, je veux dire, il tient super bien, c'est 1h18, mais voilà, c'est super, mais je trouve que vraiment, ouais, ce truc, j'avais l'impression d'être là, en fait, j'ai presque l'impression que c'est, ouais, dans la continuité de l'œuvre de Dali, que j'en apprends plus, il y avait des tableaux que je connaissais pas, etc., et tous ces jeux avec cet univers-là, moi, j'étais vachement conquise. Je sais pas si, Margot, tu veux rajouter quelque chose ?
Moi, je vais être un peu plus nuancée quand même. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment. Enfin, et puis, le fait que ça dure 1h18 aide quand même à ne pas passer un mauvais moment. Après, moi, j'avoue que j'ai quand même des grosses réserves sur le travail de Quentin Dupieux depuis quelques années. En fait, j'ai l'impression qu'il a trouvé la recette qui marche, c'est-à-dire un film court, un casting de malade avec des comédiens de ouf, genre Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Edouard Baird, tout ce que tu veux. Et un espèce de. Enfin, des ressorts comiques qui sont hyper répétitifs. Alors là, je trouve quand même que le film est plus abouti que d'autres films qu'il a pu faire dernièrement, genre Mandibule, au
genre Yannick.
Que j'avais trouvé absolument horrible. Après, moi, j'aimerais juste qu'il. Enfin, je pense qu'il a vraiment un potentiel de ouf. Hein, je veux dire, qui suis-je pour dire ça à personne? Mais enfin, évidemment, il a un talent de mise en scène indéniable qui fait qu'il arrive toujours à s'en sortir et à faire quelque chose qui est pas désagréable à voir. Mais juste, je trouve ça un petit peu frustrant la manière dont il se repose sur ses acquis. Et en fait, j'aimerais qu'il se pose un peu plus longtemps, qu'il arrête de sortir des films tous les 6 mois et qu'il bosse ses scénarios et qu'il fasse quelque chose de narrativement plus abouti. Parce que là, je trouve que. Oui, c'est drôle, mais c'est drôle un peu à l'usure, quoi. C'est en mode des gros comiques de répétition, et t'es obligé de rire au bout d'un moment. Et voilà, bon, c'est très gaggy, quoi. Gaggy, ouais. C'est vraiment des gags à répétition, et moi, il me manque quand même l'aspect un peu de narration où je sens qu'on m'emmène quelque part, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que ce film, il se regarde un peu comme, ouais, comme un sketch un peu long, quoi. Mais drôle, mais bon, c'est mineur, quoi. Est-ce que quelqu'un veut être plus positif ou le défoncer encore plus ?
Bah moi je pense que je serais un peu plus positif parce que bon déjà moi je suis pas non plus fan de Quentin Dupieux, enfin il y en a beaucoup que j'ai vraiment détesté, genre Mandibule, c'est vrai que Mandibule c'était douloureux quoi. Mais là enfin je trouve que quand même Quentin Dupieux il a une signature et que la recette qu'il réutilise à chaque fois est pas si désagréable. Enfin pour certains films ça marche vraiment bien, enfin c'est vraiment des films bon voilà, il a une idée quoi, il le fait et puis bon voilà, ça dure 1h18. Je pense que s'il travaillait encore plus ses scénarios, on aurait des films de 2h30, et là, ça deviendrait vraiment une prise d'air, effectivement, avec la répétition des gags. Mais je trouve que, justement, cette narration qui est un peu... Enfin, tu t'as dit inaboutie, mais qui est pas vraiment de narration, ça participe aussi du fait que, juste, c'est un film qui se veut utiliser des ressorts surréalistes au même titre que Dali utilisait des ressorts surréalistes dans sa aventure, et du coup, ça marche énormément avec le sujet. Genre là, il y a vraiment... Je trouve que c'est le film de Quentin Dupieux où le fond et la forme se rejoignent le plus, où c'est vraiment en totale cohérence, quoi. Et donc il utilise à la fois des ressorts surréalistes, un peu très connus comme bon, le rêve, d'accord, nana, et puis la distorsion du temps, etc. Et des éléments qui sont très propres à Dali pour faire un film qui, justement, est absurde et drôle, mais... et se fout un peu de notre gueule parfois aussi, mais je pense que ça participe aussi du but du film, quoi. De faire un film qui est à la fois une œuvre qui nous fait rire, mais qui se fout un peu de la gueule du spectateur, autant qu'il rit avec lui.
Non, mais après, je suis d'accord que, sur le fait que je trouve que ça marche assez bien, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même une certaine forme de facilité et qu'il a quand même vachement bien trouvé son sujet, ce qui, certes, n'est pas forcément donné à tout le monde, mais oui, je suis d'accord sur le fait que la forme et le fond se rejoignent, que l'univers de Dali correspond très bien à l'humour un petit peu absurde, enfin, l'univers filmographique de Dupieux. Mais enfin, cet univers, il était déjà là avant, il est déjà présent dans tous ses films précédents. Donc je peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même un petit peu facile et qu'il a pas du tout réinventé ses codes pour s'adapter à l'univers de Dali, quoi.
Mais déjà, shout out à Quentin Dupieux qui a réussi à faire un film sur un personnage historique sans être un biopic plan-plan, parce qu'il y en a marre de tous ces biopics, il y en a beaucoup trop, je trouve. Mais moi, là, enfin, je suis d'accord dans le fait qu'il n'y a pas vraiment de narration, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça super intéressant, toutes ces sortes de récits tiroirs, ces boucles. Le fait qu'on ne sache jamais vraiment quand est la fin du rêve et quand le. Enfin, quand est le vrai film, entre guillemets, enfin, la vraie histoire du film. Et parce que le but, c'est plus de, comme tu as dit, Costal, de mettre de l'absurde, du surréalisme dans le film plutôt que de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vraie narration, etc. Et aussi, le but était de brosser le portrait d'un peintre à l'ego surdimensionné, etc. Et puis, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais j'ai l'impression qu'il a essayé de montrer le sexisme dans le cinéma quand il y a Judith, qui est la personnage principale finalement du film, qui est une journaliste qui essaye de faire une interview de Dali, qui se fait engueuler par Romain Duris, son producteur, ou quand la maquilleuse se fait toucher les seins par Dali. Donc je sais pas si c'était une tentative de montrer le sexisme dans le cinéma ou je sais pas ce que vous en avez pensé sur ce point-là.
Ben moi je l'ai pas vraiment lu comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant sur le personnage d'Anaïs Desmoustiers, pas mal quand même, ouais, effectivement. Après sur l'autre scène, je sais pas trop, je me dis que c'est peut-être aussi une manière de montrer voilà, comment les époques évoluent. Et d'ailleurs sa réaction quand Dali lui prend les seins, elle dit oh bah ça va, c'est rien, et du coup c'est ça tranche
artiste,
beaucoup, c'est un artiste et du coup je trouve ça tranche beaucoup, et voilà, ça, c'est un peu choquant aujourd'hui, hein. ça amène la question quand même. Sinon moi j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais Juliette, bon, sur Édouard Baird déjà, oui, je te rejoins totalement. Et sinon tu disais que le film était rafraîchissant, et je trouve que c'est un très bon terme. Mm. Moi il m'a un peu fait l'effet d'un feel-good movie, alors que c'est pas du tout le genre, mais il fait un peu cet effet-là. Je trouve que Quentin Dupieux prend vraiment beaucoup de liberté, et en fait... on a l'impression qu'il s'en fout un peu de ce qu'il fait, il nous emmène dans des délires... un petit peu à l'image de Dali aussi, qui lui-même s'est créé tout seul comme personnage, était exubérant et tout. Je trouve que c'est rafraîchissant, ça fait du bien, c'est drôle, et puis c'est assez intéressant à voir. Et également, bah, tu en parlais, Nora, mais les procédés de mise en abîme, où en fait on sait pas trop, au bout d'un moment on se dit bon, est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce qu'on est dans le film, et finalement en fait on s'en fout, peu importe où on est, c'est assez plaisant comme voyage, et c'est sympa.
Avec les chiens qui tombent du ciel.
Ouais.
Une pluie de chiens morts.
Ah, tu veux bien.
Ouais, hein, ouais. Mais c'est Dali, et tu voulais pas jouer Dali.
J'ai vu la bande-annonce 15 fois.
Moi, je vais être parmi les plus positifs. Contrairement à ceux qui sont autour de cette table, j'ai à la fois aimé Mandibule et Yannick. Et Dupieux, alors le seul que j'ai pas aimé de Dupieux, je crois, c'était Le Dain.
Oh, c'est mon préféré, j'ai trop ri.
Oui, bah, on n'a pas tous notre Dupieux préféré, voilà. Et c'est comme ça. Non, mon préféré de Dupieux, je pense que ce sera le premier que j'ai vu qui a été réalité, avec Alain Chabat. Et je suis très content parce que Dali est peut-être le film qui a... au mieux raccordé en fait ce que Dupuis avait fait avec Réalité, qui pareil était un film qui au bout d'une demi-heure, bon je me rappelle plus, ça fait 3 ans que je l'ai vu, mais il y avait une histoire de rêve, une histoire de réalité qui n'était plus réelle, et tout d'un coup Dupieux s'était affranchi de la linéarité dans un film, du principe d'un acteur dans un film. En fait, c'est un film qui, moi, pour le coup, Dali, que j'ai trouvé un des plus inventifs qu'il ait fait en effet depuis plusieurs années. Mais je ne serais pas d'accord avec vous. Je ne pense pas que le problème de Dupieux soit qu'il ne travaille pas assez ses films, qu'il fait des films trop, qu'il en fait trop courts. Au contraire, moi, c'est quelque chose en fait, que j'aime bien. on est souvent face à des films qui ont été réalisés, enfin qui ont été produits en 3, 4, 5, 6 ans, des projets monstres qui ont été vus, revus, enfin qui ont été tellement surtravaillés que ça se ressent, et c'est un truc que j'aime pas trop. Moi j'aime beaucoup, enfin que j'aime pas trop, que je trouve à la fin lassant, parce qu'un film où on a l'impression qu'un réalisateur a travaillé 10 ans dessus, est trop fourni, qu'il en dit trop et que finalement il se perd quelque part. Moi ça me fait très très peur, le Metropolis de Coppola, où je sais qu'il est dessus depuis 70 et qu'apparemment ça a été un enfer le tournage, j'attends une catastrophe son nom. Et ce que j'aime bien avec Dupieux, c'est que c'est un réalisateur qui certes a une idée, où le film en fait va être que sur cette idée là et oui, matériellement je pense qu'il n'a pas le temps en fait d'aller chercher plus d'idées que ça et tout ça, mais ça donne un film très franc et très direct, et c'est quelque chose qui c'est con, mais ça me plaît beaucoup. Et j'apprécie me dire que tous les 10 mois, j'ai une proposition de Dupieux, une idée de Dupieux, une seule idée de Dupieux, mais tous les 10 mois, toujours très différente de la précédente, etc. Et qui est toujours maligne. Et moi, j'aime beaucoup le fait qu'il fait des films d'1h15, ça permet de s'affranchir d'une temporalité qu'on a l'habitude, du film de 2h, intro, développement, conclusion, qui à la fin, ça devient presque une disserte. C'est un cinéaste qui sait très bien s'affranchir des codes de son époque, des codes du cinéma aujourd'hui autorisés, dont on a le droit le plus souvent, et avec Dali il le fait magistralement bien, et j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est un film que j'ai trouvé au-delà de ça très drôle, les acteurs se marrent et ça me fait beaucoup rigoler de voir Edouard Baird qui cabotine, de voir Jules Lelouch, je l'ai trouvé drôle, j'adore comment il essaye de retranscrire les mimiques de Dali en fait sur son visage. Je pense que c'est physiquement l'acteur qui tient le mieux Dali, pas au niveau de la voix mais au niveau du physique, c'est lui qui le tient le mieux. C'est lequel le dernier acteur qui reste encore?
Et Jonathan Cohen
qui est peut-être dans le meilleur rôle qu'il a fait.
C'est la première fois qu'il ne joue pas lui-même en fait.
Voilà.
Oh my God.
Et moi j'ai presque l'impression qu'il joue lui-même. Enfin, je dirais bon, Edouard Baird et le Dali.
Qui se moque de lui-même un peu, comme on avait vu un peu dans ce rôle-là dans Making Of aussi. Et moi c'est les deux trucs où je le trouve supportable en fait. Sinon dans cette espèce de caricature de pas de lui-même et de son personnage. Et là on voit qu'il se moque un peu de la persona qu'il peut avoir lui, d'être l'artiste machin et tout. Enfin, quel artiste, on est d'accord. Non mais du coup c'est ça qui est drôle aussi quoi.
Et puis Pio Marmaille que j'adore est peut-être le moins bon des quatre.
Mais le plus absent. Il fait deux scènes.
Parce qu'ils ont eu des grosses contraintes de tournage. Hein. Je crois que y a eu. J'ai entendu dire que par exemple Gilles Lelouch, il avait été dispo genre 3 jours. Enfin bref, je pense qu'ils ont vraiment tourné en très très peu de jours et que c'est peut-être pour ça qu'il y a des acteurs qu'on voit très peu au final.
Par contre, tu dis magistral, etc., mais tu n'as mis que 3,5 sur Letterboxd.
Ah, la police de Letterboxd qui parle.
Sur Letterboxd et moi, personne ne suit.
Mais dites-nous.
En vrai, je viens de créer
notre compte. Abonne-nous.
Il y a 2 semaines.
Ah, moi aussi, c'est ma résolution de la nouvelle année.
Et voilà.
Résolution.
D'ailleurs, mon père vient de m'envoyer un message en me disant. Le seul Dupieux qui tient la route.
Ah, mais je suis d'accord.
Mais après, moi, si je peux juste rajouter quelque chose sur Dupieux, en fait, je crois que mon problème avec Quentin Dupieux, c'est que j'ai l'impression qu'il ne faut pas voir tous ses films. Sinon, on s'ennuie, en fait. Et
t'en as marre. Après.
Et j'aime pas trop. J'aime bien voir la progression d'un ou d'une cinéaste dans le temps, de voir comment son univers évolue, comment ses idées évoluent. Et en fait, j'ai l'impression que. D'un côté, oui, c'est super, et je pense qu'il a vraiment une place à part dans le paysage du cinéma français, et je peux pas dire que j'aime pas Quentin Dupieux, parce que c'est pas vrai, mais juste, je trouve qu'il y a pas vraiment d'évolution depuis quelques années dans son cinéma, et qu'il se repose beaucoup sur ses acquis, et j'aimerais bien voir de nouvelles choses, de nouvelles propositions, parce que notamment ce truc qui est très présent dans Dali, là, du hein, on sait pas si c'est un rêve ou la réalité, franchement, Dupieux, il l'a déjà fait, quoi.
Oui, mais enfin, je veux dire, à ce moment-là, Scorsese, ça fait 40 ans qu'il fait le même film, tu vois, je veux dire...
Oui, mais lui, c'est vraiment le même
film. Il attend 10 ans en plus pour le faire, tu vois, il attend 10 ans pour les faire, tout ça. J'aime bien le côté où, en fait, c'est presque quand il aurait pu faire en fait, un film avec les idées qu'il a eues dans Le Dain, Mandibule, Yannick et Dali, il aurait pu tout rassembler ça dans un film, en faire un film de 2 heures, je trouve ça cool qu'ils se disent, bah, je vais traiter les idées une à une et faire ça une fois tous les 8 mois, tu vois. Je sais pas, moi, c'est vraiment un côté stimulant, en fait, de détricoter le film-là et d'au lieu de surcharger un film, en dire je vais aller à l'essentiel, au plus pur, à une idée même et je vais m'y tenir pendant tout un film. Je trouve que ça fait des essais de cinéma beaucoup plus intéressants, tu vois. Et ça dit des choses hyper intéressantes sur la figure de l'artiste, tu vois, la vanité de ce qu'est être un artiste. Je trouve ça hyper passionnant de montrer que Dali, enfin, que l'image qu'il en a de Dali, c'était juste d'un mec qui faisait des trucs chelous et que personne ne comprenait, que tout le monde faisait semblant de comprendre, et que Dali lui-même faisait juste parce que c'était chelou, et que ça lui plaisait de faire ça chelou. Je ne sais pas si c'est ce que Dali pensait, mais je trouve que c'est un truc hyper intéressant, et ça me paraît être presque le cinéma de Dupieux, en fait. Dupieux, il prend une idée, enfin, Mandibule, je ne suis pas sûr qu'il y ait un message socio-économique sur ce qu'est être une mouche géante, tu vois, mais juste qu'est-ce que c'est une mouche géante face à deux stoners? Bah, c'est juste drôle en fait de s'imaginer ça. Et j'aime bien que Dupieux il arrive à aller à l'essentiel, dans cette simplicité là qui moi je trouve est pour le coup vraiment rafraîchissante.
Ouais, et puis pour le coup, je trouve qu'il désacralise doublement dans ce film un petit peu la place de l'artiste. Déjà, il désacralise Dali en tant qu'artiste en disant bah voilà, c'est un type qui fait des trucs chelous, comme tu disais, et qui se crée son personnage, mais qui n'est pas non plus un homme. Enfin voilà, ça pourrait être une personne lambda. Et ensuite, il se désacralise aussi lui-même en disant bah voilà, je ne vais pas faire un film de 2h30 hyper compliqué. Hyper cohérent surtout, où les trois quarts des gens vont sortir de la salle en disant bah, « j'ai pas tout compris, c'était pas mal, mais voilà, je sais pas, bah, là, voilà, c'est un film, c'est du divertissement. » Et je pense que ça renoue aussi avec une forme de cinéma un peu de divertissement qui est accessible et qui cherche pas forcément à faire à tout prix un exercice de style, un exercice sur tous les plans. C'est aussi un film un peu sans prétention, je dirais.
Moi, je sais pas. Moi, ce film m'a laissé un peu... Enfin, bouche bée. En fait, disons que vraiment, je sortais de Yannick. Non, pas dans ce sens-là, mais parce qu'en fait, moi, je pensais pas aimer. Parce que, en fait, Dali, tout le monde était hyper positif. Et moi, tout le monde a été hyper positif pour Yannick. Et je croyais que c'était vraiment...
Mon
traumatisme. C'est... Mais oui, parce que, en fait, moi, je trouve que dans ce film, il fait quelque chose qu'il n'avait pas dans Yannick. C'est-à-dire qu'il va s'engager visuellement, au moins. Parce que... Comment dire ? Moi, je trouve le film visuellement très réussi. Oui, justement, vrai. Tu dis qu'il ouais, se renouvelle décors, pas, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est un de ses films les plus réussis depuis, enfin, visuellement depuis extrêmement longtemps. On peut penser à Fumer fait tousser où il y avait des efforts au niveau des costumes. Enfin, bon, ça se passait. Tu prenais le sud, une petite garrigue, une fosse, un bunker, et voilà. Enfin, non, mais là, je trouve que visuellement, il a plein d'idées en termes de décors, en termes de costumes. Même cette idée, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais le fait de faire jouer Dali par, du coup, six comédiens différents, qui est un truc, en vrai, qui se fait pas mal au théâtre. Et en fait, je trouve que là, l'adapter au cinéma, ça fait vraiment sens. Et je trouve que, justement, visuellement, je trouve que là, il arrive à se renouveler, même si, effectivement, il reprend des tropes d'écriture qu'il avait déjà. En fait, c'est juste que là, je pense que ces tropes d'écriture sont en adéquation avec le film. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'être quand même plutôt d'accord avec Margot, de me dire que j'ai envie que... En fait, tu disais, Arthur, ce que j'aime bien avec Dali, c'est qu'il prend une idée, il reste simple, etc. Il ne cherche pas à parler de 15 500 films à la fois. Pardon, j'ai dit Dali alors que c'était Dupieux qu'il fallait dire, ou est-ce que j'ai dit...
Oui, ouais, c'est ça.
Je crois que j'étais un peu
fatiguée. Avec Dupieux, du coup.
On en sait rien. Voilà, voilà.
Ça va, Juliette.
C'est bon, nickel. Mais du coup, en fait... mais quand tu passes 10 ans sur un scénario ou plus de temps, t'ajoutes pas nécessairement plus de choses, juste t'es plus précis dans ce que tu veux dire. Du coup, tes blagues, elles ont plus de force. Tu vois, c'est pas parce que. Enfin, moi, en fait, ce que j'aimerais bien avec Dupieux, c'est qu'effectivement, il se pose plus sur ses scénarios parce que là, en fait, il réfléchit beaucoup à ses comédiens, j'imagine, pas trop à la direction d'acteur, même si là, c'est extrêmement bien réussi. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur directeur d'acteur du monde, je pense. Et en fait, du coup, il passe pas beaucoup de temps sur le scénario, il passe pas beaucoup de temps sur le tournage, ce qui fait que, en fait, c'est moins sur on regrette qu'il n'y ait qu'une seule idée, plus qu'en fait on regrette que ça pourrait être plus abouti, plus percutant, qui est et moi c'est quelque chose que je remarque aussi dans le cinéma. Moi, c'est pas parce qu'un film passe 10 ans dessus qu'il est bon. Enfin, je veux dire, le Cameron là, le Avatar 2, enfin, on avait déjà débattu, mais le scénario tu pouvais le mettre, enfin tu l'écrivais en 2 semaines, je veux dire, et pourtant James Cameron il avait passé 10 ans dessus. C'est pas la question. Moi, c'est juste que j'avoue que je trouve que le scénario, des fois, est un peu laissé mis de côté dans le monde du cinéma, notamment français, pour tout ce qui est mouvement de caméra, mise en scène, etc. Et que je trouve que c'est quand même une base du film, que c'est important. Et que des fois, c'est ça qui m'énerve avec Dupieux, c'est qu'il a un truc et il va répéter ça en boucle. Alors que justement, c'est ça qui est intéressant. Mais là, je trouve que dans Dali, parce que cet objet-là, ça marche plutôt bien. Voilà.
Après, c'est sûr que Dupieux, il se revendique d'un certain artisanat du cinéma qui, il revendique le fait de faire des films très vite, de passer peu de temps sur ses tournages, etc. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine hypocrisie dans le fait d'être en mode « Ah, moi, je suis un petit artisan du cinéma, je fais des films vitef », alors que t'as genre Gilles Lelouch et Tutti Quanti dans le film. On va pas se mentir, c'est un petit peu hypocrite, donc... Quitte à aller taper dans du gros film français qui a des ambitions niveau entrée et tout, ce qui est le cas, parce que quand on voit il a eu quand même une bonne promotion, donc clairement c'est un film qui a de l'ambition. À un moment, faut arrêter d'être en mode « non, je fais un film juste pour moi parce que c'est marrant, ah non », enfin genre en mode le film a de l'ambition, tu vois. Et bon, moi j'aimerais bien que cette ambition-là, elle ait été plus portée le film et le scénario, quoi. Voilà, moi, je vais lancer une pétition pour que Dupieux écrive des meilleurs scénarios, voilà.
Je veux pas répondre.
Arthur, t'as l'air en colère contre moi.
Bah non, pas que contre toi.
On va encore parler de la
Là, oui, je sens que là.
En vrai, je pense que Dupieux est un flemmard. Hein.
Mais oui. Arrêtez de. Mais c'est... Non, mais ok, on je vais m'énerver. Là.
C'est ce qu'on veut dire depuis le début.
Mais et... vous dites qu'il est flemmard.
Ça veut dire qu'il est mauvais. Hein.
C'est pas une critique.
Il sort un film. Dis-moi, Bonello, il fait un film de merde. Je suis sûr que ça faisait 5 ans qu'il bossait dessus. Au bout d'un moment. Et voilà.
Hein.
Alors, voir. Bon, attendez.
Allez, Bonello, il a fait plein de films, hein, par contre. Il a charbonné. Hein. Tu sais qu'il sort un film tous les 2 ans.
Bah, ouais, mais
bien sûr,
longtemps.
Mais bien sûr, le dernier film, c'est il y a
été. Mais Dupuis en sort 4 en 2 ans.
Et ben voilà, Dupuis il en sortait 4 et les 4 ils sont meilleurs que ce que j'ai vu là. Hein.
Bon, alors Arthur, si tu y tiens tant, ok, on va parler de La Bête, d'accord. Est-ce que Juliette, tu voudrais bien nous présenter ce qui a été ton plus grand coup de cœur des 10 dernières années, il me semble.
Exactement, c'est ça. Alors La Bête, c'est le dernier film de Bertrand Bonello. Avec donc Léa Seydoux et George MacKay qui nous présentent un récit dans un futur proche où en fait c'est l'intelligence artificielle qui règne et où les émotions humaines sont devenues une menace. Je lis évidemment un résumé halluciné.
Il y a si peu d'objectivité dans le ton de ta voix que ça me fait rire.
Ah bon ? Ah non, j'essaie justement de mettre du ton.
Une menace.
Bon, je lis déjà, qu'est-ce que ce serait si tu essayais à l'autre. Et donc, pour s'en débarrasser, Gabriel, donc joué par Léa Seydoux, doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures.
C'est pire en pire.
Ça suffit, je t'ai donné une mission.
C'est un scénario de dystopie pour Teen Movie, ça, non?
Non, mais du coup, elle va replonger dans deux de ses vies antérieures, une que je daterai du 19e siècle à peu près, c'est ça?
1910.
Oui, c'est ok, 1910 et une 2014. Une 2014,
2014 et 2044.
Et 2044, ouais, c'est ça. Et donc, dans ses vies antérieures, elle va y retrouver Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit. Le pressentiment qu'une catastrophe se prépare.
C'est de la méchanceté.
Mais vraiment, je le lis juste avec un ton. Enfin, je comprends pas ce qu'on me reproche. Mais...
On peut pas le lire autrement, tu vois.
C'est ça. Mais si tu veux, Costal, tu peux commencer à nous dire pourquoi tu as aimé ce film.
Oui, alors bon. Moi, en vrai, j'étais parti. J'avais très envie de le voir, mais j'étais quand même parti avec un a priori un petit peu négatif parce qu'il y avait un film qui était sorti sur le même texte de Henry James. Écrit, donc je sais plus comment, mais en 1908, non, enfin en 1910.
Ouais, tout début 20e.
Oui, avant la Première Guerre mondiale. Qui était sorti, qui était réalisé par.
Patrick Chirou.
Chica, Patrick Chica, un truc comme ça.
Patrick Chia.
Comme les graines de chia.
Patrick Chia,
bah, évidemment, enfin, qui ne préfère pas. Non, elle est insupportable.
Moi non plus, mais là.
Non, mais. On...
Merde.
J'avais vu le film de Patrick Chia qui s'appelle La Bête dans la jungle et qui est sorti cet été.
Tu parles carrément mon humour.
Chia.
Après, on critique ma prononciation du générique, mais hein, tu as bien souligné le
Chia. En plus, c'est Patrick sans cœur avec son père chez qui lui ben, enfin, vraiment, le coup.
Non, je jure, c'est Patrick sans cœur.
C'est Patrick sans cœur, mais oui.
C'est Patrick sans cœur.
Non.
Ah, si, je me souviens de ça. Si, voilà.
Ah, mais c'est Chira. Ah, ouais, vraiment.
Voilà, le radim, c'est.
Voilà.
Oui, Patrick Chira. Okay, mais...
Patrick... Oh non.
Patrick Chira.
Donc, j'avais vu le film réalisé par Patrick Chira. Et le film, non, il était pas nul, mais le film était très obscur et je m'étais dit, oh là là, connaissant Bertrand Bonello, ça va être encore plus obscur que le film de qui était sorti cet été, et du coup ça va être vraiment incompréhensible. Et en fait, je trouve que là où le film qui était sorti cet été avec Anaïs de Moustier ne poussait pas assez loin le parti pris dans le côté étrange, le côté un peu vertigineux, bah du coup ça faisait un espèce de film où on essayait de trouver une signification à tout prix et on n'y arrivait pas trop parce qu'en vrai le récit est ambivalent et complexe de bout en bout, donc on peut pas tout comprendre tout le temps, il y a des zones d'étrangeté. Mais là où ça restait une frustration un petit peu pour le film qui était sorti cet été, pour moi dans ce film là c'est pas du tout une frustration parce que justement le film il est vertigineux et du coup il est vraiment stimulant mais de bout en bout, vraiment les sens sont aux aguets sans cesse, on a vraiment peur et même si on sait que du coup la bête, bon, c'est une métaphore évidemment, c'est pas un tigre, c'est pas une panthère, c'est une métaphore pour sentiments internes, la peur d'aimer. Enfin, bon, je pense que voilà, il y a plein de trucs à dire.
La mort, le désespoir, la solitude.
C'est pas vous qui en parlez mal. Hein.
Ouais, non, mais on va dire que c'est une métaphore pour quelque chose qui est interne, donc qui ne. Enfin, qui est difficile à retranscrire
surtout
à l'écran.
Surtout qui est propre à chacun.
Et qui est propre à chacun. Et donc, enfin voilà, là, le film en fait quelque chose qui est angoissant pour vraiment tout un chacun pour le coup. Genre, c'est angoissant, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie bête qui va bondir et qui va déchirer des têtes, quoi. Donc, on est vraiment en alerte pendant tout le film. Et je trouve que la proposition qu'il fait est très intéressante. Je vais peut-être arrêter de. Enfin, peut-être laisser la parole à quelqu'un qui est plus négatif. Comme ça,
est-ce que d'abord. Bon, allez, non, je dis non. Du positif pas... parce que là, ouais. Il va me briser le cœur.
Non, okay. Non, je vais être gentil.
Alors moi je peux que plus soyez ce que tu viens de dire Costal, moi j'ai vraiment adoré ce film et pareil en fait là où, en fait je trouve que c'est vraiment le meilleur sentiment quand t'es persuadé que tu vas pas aimer un film et que tu finis par l'adorer, je trouve que c'est vraiment un sentiment exceptionnel et pareil j'avoue que Bertrand Bonello c'est un petit peu un réalisateur qui me fait peur parce que c'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup à mon univers. Moi, j'aime bien qu'on m'explique les trucs. J'aime bien qu'on me dise « Ah, là, il se passe ça, à la fin. » Voilà, moi, j'aime bien les narrations.
Il a fait des films qui étaient très narratifs. Hein. Enfin, oui. Par exemple, Saint-Laurent, c'était très...
Oui, Saint-Laurent, mais parce que Saint-Laurent, il y a le côté biopic, donc ça fait que je pense qu'il se rattache davantage à une narration plus classique. Bref, ce film, c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça tellement... Enfin, ça, vraiment, ça m'a bouleversé et je trouve que l'éloge qu'il fait de... des émotions humaines, enfin j'ai trouvé ça absolument magnifique et extrêmement profond et vraiment juste bouleversant et je trouve que c'est un film qui est extrêmement travaillé mais vraiment dans le bon sens du terme et en fait tout, déjà visuellement c'est extrêmement léché et c'est enfin une photographie que j'ai trouvé sublime, enfin vraiment un sens de la mise en scène super et surtout qui sert son propos notamment, enfin par exemple quand je pense à ça, je pense aux scènes au début du film, parce qu'en fait, il y a quand même une forme de linéarité dans la chronologie, parce qu'on commence quand même plutôt, on va dire début 20e siècle, 1910, etc., avec notamment des scènes dans une usine qui fabrique des poupées. Et en fait, au début, on se dit « Ah, marrant, le mec fabrique des poupées ». Et en fait, en avançant dans le film, on se rend compte à quel point tout a été pensé, et c'est vraiment une réflexion sur la manière dont les êtres humains, en fait, ont toujours cherché à fabriquer, on va dire, un ersatz d'humanité et sans jamais tout à fait y parvenir. Et c'est là où je trouve qu'il y a une lecture extrêmement intéressante de l'intelligence artificielle, de ces nouvelles technologies. Et je trouve, on a pu lui prêter l'intention d'être un peu boomer en mode « Ah, on va se faire... » enfin, oh là là, futuriste, les intelligences artificielles ont détruit l'humanité. En fait, non, justement, ce qu'il montre, c'est qu'on a toujours eu cette volonté de savoir ce qui faisait qu'on était... des êtres humains, d'essayer de se dupliquer, de mettre notre âme dans des objets inanimés, et en fait, sans jamais vraiment y parvenir, parce que à la fin, il y a quand même, je trouve, une lecture super intéressante sur le fait que il y aura toujours des êtres humains pour s'attacher à ce qui fait qu'on est pareil à aucune autre espèce, et qu'on est irremplaçable, et qu'on est juste des êtres humains, et ça, je trouve ça vraiment extrêmement beau, et vraiment très nuancé, et très poétique, et sublime.
Aïe. c'est très emmerdant de parler d'un film dont soit j'ai pas compris le sens, soit je le trouve simpliste et bah, je vais pas dire idiot, mais bête en fait. Hein, je trouve que c'est un film qui.
D'ailleurs, il s'appelle La Bête, mais peut-être ouais. Est-ce juste bête. Ami des mots, bonjour.
Bonello, genre j'ai pas vu son film, son biopic sur Saint-Laurent, je ne connais qu'un seul film de Bonello, c'était Nocturama que j'avais vu, mais alors je pense trop jeune, que j'avais pas aimé, et je m'étais pas après replongé dans sa filmographie, donc c'est le deuxième Bonello que je vois, deuxième.
D'ailleurs, je crois que c'était Gaspard Ulliel qui devait jouer le rôle de l'homme dans
ouais.
Le film.
Ouais.
Et c'est pour ça que ce film lui est dédié. D'accord. Parce qu'il est mort un mois avant.
Ah oui, c'est dédié à Gaspard, je savais pas que c'était Gaspard Ulliel.
Oui, Nocturama que j'avais, je pense, vu trop jeune et qui m'avait du coup pas plu. Donc du coup, là, c'était un peu une occasion pour moi de donner une deuxième chance à Bonello. Je vais passer très vite, je pense, sur ce que j'ai apprécié dans le film. Une scène, pour ceux qui l'auront vu, verront de quoi je parle, en fait, le segment du milieu, grosso modo, où elle est dans la maison et qu'il va y avoir une intrusion. Je trouve le message qui est derrière complètement bête. C'est peut-être là où j'étais le plus énervé contre le film. Je trouve qu'au niveau de mise en scène, ça marche très bien. J'ai vraiment été pris, j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment été scotché à mon siège. Il a en plus très bien désamorcé cette scène-là avec un foreshadowing qui était mis au début et au tout début. Et je trouve que cette manière d'avoir réussi à tourner la scène, c'était pas trop mal. Il y, Il y a quelques idées de mise en scène qui peuvent marcher, mais au-delà de ça, c'est le message qui est dans ce film-là. Je suis désolé, je vais lui prêter des intentions de boomer. Je pense que quand on arrive en 2023 et qu'on dit « les IA vont faire que on va plus avoir d'émotions plus tard », mais enfin, te faire le Equilibrium en 2024, c'est chaud quand même. C'est vraiment un film qui a, je vais le dire, 20-30 ans de retard sur les systèmes, le système qui va analyser. Dire « ah, les émotions humaines vont partir », c'est un lieu commun du cinéma et de la littérature avant d'elle, de science-fiction tellement vue et revue que essayer de dire des choses nouvelles là-dessus, je trouve que c'est un défi qui était beaucoup trop haut et il n'a absolument pas les moyens de ses ambitions. Et je trouve qu'il fait un film qui va repomper allègrement sur des œuvres de pop, des œuvres cinématographiques avant. Enfin, je veux dire, je suis désolé, c'est Cloud Atlas en moins bien. Vraiment beaucoup Cloud Atlas en moins bien. En reprenant cette même manière de faire, bah, je vais faire trois. Cloud Atlas, c'est six époques dans le temps. Là, je vais faire trois époques dans le temps. Où je vais dire que finalement on a tous toujours le même chemin et qu'on a toujours la même ligne d'arrivée et tout ça. Et c'est quelque chose de vraiment énervant. Et puis tu parlais du truc de la poupée, le message derrière peut être intéressant, mais c'est lourd. Ah là là, la dame qui est une intelligence artificielle, qui est un robot, elle s'appelle Poupée, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il l'appelle comme ça pour surligner encore et encore c'est ce qu'il avait à dire. Je trouve que c'est un film qui est tellement pas sûr de lui, qui surligne tous les messages. À la fin, ça devient vomitif, quoi. On a compris que c'était trois fois la même histoire, mais te le cracher, te l'hurler constamment à la tronche pendant 2h30, c'est lourd, c'est pesant. Je trouve qu'en plus, c'est pas très très bien joué. Léa Seydoux, elle est en pilotage automatique la moitié du film. Comment il s'appelle?
George MacKay,
il est pareil, il est aux fraises, alors que George MacKay, je le trouve magnifique. Enfin, honnêtement, c'est un super acteur et je trouve que là, il est aux abonnés absents. Le propos qu'il y a sur les incels est complètement à l'ouest. Je trouve que ce film-là, encore une fois, c'est vraiment un film de boomer. Enfin, les trucs sur les pop-ups, j'ai l'impression qu'il a découvert Internet en entière, quoi, pendant le Covid. C'est un film qui est complètement à la masse sur l'époque dans laquelle il parle, qui a un message, je trouve, qui est au mieux inutile, au pire, parfois un peu sexy, voire même franchement sexiste à des moments. La manière dont il décrit Léa Seydoux en tant que femme, je trouve que c'est nullissime. C'est un film vide, plat, et le peu d'ambition qu'il peut avoir, il l'a reçu dans d'autres films. Je trouve que c'est un film complètement inutile, et malgré ça, et malgré le fait qu'il y ait 2-3 scènes qui ont des idées de mise en scène qui sont intéressantes, et moi je sauverai les 15 minutes d'intrusion dans cette maison à la fin, qui je trouve sont pour le coup haletantes, prenantes, et si on les retire de tout le film, donnent quelque chose d'intéressant. Peut-être cette scène dans le... sans vraiment sans spoiler, à un moment il y a des personnages qui doivent plonger, je trouve qu'elle a un vrai sentiment d'effroi qui marche très très bien, d'accord, il s'est réalisé quelques bonnes scènes d'effroi, après je trouve ça vide et inutile.
Allez, vas-y Juliette.
Alors moi je crois que j'ai pas les mêmes enfin du coup j'ai pas du tout aimé le film non plus, mais je crois que j'ai pas les mêmes reproches sur le film que Arthur. En fait, vous avez fait que dire oui. Donc Margot, t'étais plutôt positive sur les faits. Non, mais dis-moi si c'est. Non.
Moi j'ai été gentille, hein. Je tiens.
Non, mais Margot était là, oui, je trouve ça intéressant sur le truc des émotions, etc. Et tu disais qu'il arrivait à retranscrire ce truc des émotions. Et Arthur, tu disais, ah, les émotions, c'est pas intéressant parce que ça a déjà été vu. Moi, à la limite, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Genre, je pense que, enfin, philosophiquement, c'est une question qui est intéressante, que la question des émotions, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, sur le plan intellectuel, m'intéresse. Moi, le reproche que se fait à ce film, c'est pas nécessairement de lier la question de l'IA aux questions des émotions, c'est juste que c'est un film qui est censé te dire, regardez cette femme, elle n'arrive pas à ne plus éprouver d'émotions, et moi, devant ce film, j'éprouve rien. J'éprouve juste de la peur. C'est le seul sentiment que j'ai. Elle est censée tomber amoureuse. Rien. Je ne comprends pas quand elle est heureuse. C'est un film qui est fondamentalement froid. Et qui est froid d'ailleurs comme son actrice Léa Seydoux qui fait du Léa Seydoux. Enfin, non mais c'est vrai. Et c'est pour ça que... Et en plus, on ne fait que la comparer à une poupée. Parce que du coup, donc, dans la première vie, elle est, son mari fait... Mais quoi ?
Non, c'est juste qu'il y a eu un regard de Margot vers Costal. Ouais, putain, ils sont relous.
Mais non, mais parce que, enfin, on fait que la comparer à ce truc de poupée effectivement froide, et où, du coup, il y a une scène de 5 minutes où elle refait le visage effacé d'une poupée, etc. Sauf qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça, c'est le jeu de Léa Seydoux un peu pendant tout le film. Et en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'on me propose une réflexion sur les émotions liées à l'IA, mais justement, moi, j'ai juste... et à Léa, waouh. Mais en fait, c'est juste que j'ai rien ressenti. Il n'y a aucun propos qui est dit sur ces émotions-là parce que moi, je ne les ressens pas. Et c'est ça mon principal problème avec le film. Un film qui veut parler d'émotions, qui t'en fait pas ressentir.
Froide, en fait.
Mais non, mais pardon. Ah, mais alors là, par contre, en tant que grande amatrice de comédie romantique et j'aime comment on représente l'amour au cinéma et comment. Parce que là, c'est censé parler d'amour. Mais et en plus, un amour.
Pourquoi c'est censé parler d'amour?
Regarde. Alors, quand j'ai lu le résumé Allociné, et donc on fait que dire qu'elle rencontre Louis. Du coup, elle va rencontrer Louis dans ses vies intérieures. Bon, moi, en plus, ça m'a rappelé le message de Past Lives. Et si vous vous souvenez l'épisode sur Past Lives, bon, j'avais pas été très positive, même si. Même si. Mais non, mais là, c'est pas que mon cœur est sec. C'est que, en plus. Non, mais pardon, mais là c'est pas.
Je dirais pas la dernière comédie romantique que tu as aimée, Juliette, parce que ça te servira
Anyone
pas.
Anyone But You est super. Moi, je maintiens que, objectivement, c'est très mauvais, mais que j'ai passé un super moment. Mais le sujet n'est pas No Anyone But You.
Avec
Glenn Powell, ouais, je crois. Voilà. Bah, objectivement, si vous aimez pas les comédies romantiques, n'allez pas voir ce film. Mais par contre, si vous êtes un peu une geekos comme moi de ce genre de film, allez-y. Mais bref, pour revenir au sujet, en fait, un film qui veut parler d'émotions et qui m'en fait pas ressentir, à part effectivement, je suis d'accord avec Arthur, cette espèce de peur qui est latente, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui. Enfin, il y a une intrusion, quelqu'un qui va essayer d'aller tuer quelqu'un dans une maison, donc effectivement, ça fait de la peur et c'est bien mis en scène. C'est juste que déjà, en plus de ça, on nous raconte juste trois fois la même histoire. Et la première histoire est. Visuellement, le film est beau, donc les costumes sont beaux, donc on est un peu pris dedans, on se demande ce que c'est cette bête en fait. Et petit à petit, on arrive à comprendre, puis bon, c'est un peu entremêlé les histoires, c'est pas. Enfin, narrativement, t'as pas la première histoire, puis la deuxième histoire, puis la troisième histoire, c'est un peu. C'est presque ça, mais pas tout à fait. Mais en fait, une fois que t'as compris ce qui se passait dans la première histoire, bah, la deuxième et la troisième histoire, c'est juste les mêmes trucs avec les mêmes symboles qui reviennent tout le temps, qui sont. Enfin, qui moi m'ont insupporté, notamment le truc de la poupée qui revient. Parce que dans la première histoire, du coup, le mari est fabricant de poupées. Dans la deuxième, il y a des poupées qui parlent un peu. Et dans la troisième, du coup, c'est il y a l'intelligence artificielle qui est devenue cette poupée. Et il y a que des symboles comme ça qui reviennent. Et où ah non, là, ce serait spoilé. Bon, disons qu'il y a de l'eau qui revient dans des moments qui sont tragiques et que à chaque fois c'est la même fin. Et justement, je crois qu'en fait, vous parliez de mystère. En fait, moi, j'aurais aimé qu'il y ait du mystère dans ce film. Mais j'ai l'impression que justement, là, il me disait trop. Que dans ses symboles, il était extrêmement explicite. Et que, j'avais juste l'impression de voir le même film en boucle. Et enfin, mon dernier reproche du film, c'est cette espèce de sexisme et son propos sur les incels. Donc, je fais référence spécialement à la deuxième histoire. Parce qu'en fait, c'est un film qui dit, en tout cas, dans le résumé Allociné, et du coup, le distributeur en fait la pub dessus. Donc, j'imagine que ça doit quand même être lié à une intention artistique de « Ah, qu'est-ce que c'est l'amour ?» et tout. Avec donc, en fait, je sais pas si c'est spoilé ou pas, mais dire « L'homme, il est violent », quoi. Enfin, avec un amour toxique, on pourrait dire. Et tout le propos qui est fait sur les incels de « Ah, machin, mais bon... »
Mais non, mais justement, moi, je trouve que c'est... Enfin, je trouve pas du tout que... Enfin, alors, je suis d'accord sur le fait que je pense que c'est un film qui n'est pas parfait et je dis pas que c'est un chef-d'œuvre à chaque seconde. Je suis d'accord que la deuxième histoire est peut-être un petit peu plus faible et parce qu'elle se répète un peu. Elle est un peu plus longue, elle s'installe un peu et on c'est vrai qu'on sent un peu où ça va.
Surtout qu'elle arrive au bout d'une heure et demie de film, limite. Enfin, je veux dire,
oui.
Tu recommences un truc, oui, c'est vrai que c'est un peu...
Mais je trouve que le propos sur les incels n'est pas du tout celui que tu décris. Moi, je trouve que justement, il y a à la fois une continuité dans le fait de parler des émotions et en particulier peut-être des émotions amoureuses, mais il y a une nouvelle manière de le traiter. C'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que la manière de traiter ce sentiment-là, en fonction des histoires, n'est pas du tout la même. Et pour cette partie sur l'incel, en l'occurrence, au singulier, moi, je l'ai vraiment compris comme... l'impossibilité pour cette personne-là de gérer ses émotions. Et moi, j'y ai pas du tout vu du sexisme. Enfin, je pense que ça aurait été sexiste de montrer que c'était que ça pourrait être la faute du personnage de Léa Seydoux, mais d'ailleurs qui a le même nom de famille que moi, je tiens à le dire. Voilà.
Non.
Oui. Jérôme. Nicolas.
Donc.
Non mais moi, je sais pas, peut-être qu'on coupera au montage, moi c'est juste que, parce que ça dévoile en plot, mais en gros le truc de « Oh regarde l'incel, il arrive chez toi et puis genre tu le prends dans tes bras et c'est bon parce qu'en fait il avait juste besoin d'amour », enfin moi c'est ça que j'ai vu, enfin comment ça peut ne pas être sexiste ou, enfin, oui, enfin parce que tu, t'as...
C'est peut-être hyper problématique, mais enfin je veux dire, je pense que les incels c'est un peu, enfin je pense que comme tout le monde, des êtres humains qui ont besoin de...
Non mais bien sûr. Mais du coup justifier, enfin j'ai l'impression qu'il justifie son truc parce que justement il a pas d'amour et que du coup c'est ok.
Mais moi, au final, ce que tu as dit, j'ai l'impression que ça sert plus à valoriser le film pour dire qu'il a atteint un propos qui est au final assez juste, parce que je pense que ce qui est l'enjeu de ce film, c'est la bête, c'est la peur de l'émotion. C'est vraiment, la bête, c'est l'émotion, en fait. Et du coup, c'est l'angoisse que tu ressens face à certaines émotions. Et du coup, au final, tu ressens pas forcément l'amour, parce qu'elle se protège de ressentir l'amour. Mais du coup, il y a certains moments qui sont quand même très bien faits, parce que je trouve que le mélange des genres est vraiment très bien développé dans ce film, où il y a des scènes qui sont plus, enfin, il y a des scènes qui sont clairement tragiques, il y a des scènes qui sont plus romantiques, il y a des scènes romanesques, du thriller, il y a de l'horreur, enfin, il y a des choses qui se mélangent sans cesse. Et je trouve que justement, dans les scènes, par exemple, dans la fabrique de poupées, où tu commences à avoir des mains un peu se frôler, où tu commences à avoir un peu un frisson d'amour, bah au final, ça se finit, enfin, je veux dire, ça se finit tragiquement, parce qu'il y a cette bête, parce qu'il y a cette peur de l'émotion. Et au final, du coup, je trouve que le film est vraiment très bien construit dans son récit, parce que même si les trois récits ils se répètent un peu, c'est vrai, il y a une continuité narrative qui est absolument dingue, où tout fait écho dans l'entre les histoires à d'autres éléments des autres histoires. Et je trouve que c'est vraiment jubilatoire de voir ça, déjà rien que d'un point de vue scénaristique. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie progression, où bah, au début, elle a peur de cette émotion, mais elle se laisse quand même aller à certains gestes, jusqu'à la fin où l'intelligence artificielle, on s'en fiche un peu, mais à la fin on essaye d'annihiler les émotions parce qu'on est arrivé au point où on a peur d'avoir peur face à des émotions, on veut tout couper là. Et je trouve qu'il retranscrit très très bien ce vide qui est cette absence d'émotion dans certains personnages. Et même si c'est un sujet qui est repris, enfin je pense qu'on a tous pensé au livre qu'on a tous lu au collège là,
le meilleur des mondes,
c'est un peu la chose. Là je trouve que c'est vraiment un vrai challenge de retranscrire le vide que tu peux avoir en toi quand t'as pas d'émotion, et je trouve qu'il le fait vraiment très bien. Et au final, quand tu parles de Léa Seydoux qui fait le visage de poupée, moi j'aime vraiment pas du tout Léa Seydoux. Enfin, effectivement, Léa Seydoux, c'est un peu l'antithèse de Sandra Hüller, quoi. Genre, Sandra Hüller, tu la reconnais pas de film en film. Léa Seydoux, à chaque fois qu'il y a un film, t'es en mode ah, c'est Léa Seydoux, et pendant 2h30, tu vois Léa Seydoux, et puis t'en as marre de Léa Seydoux à la fin. Mais là, je trouve que ça se justifie vraiment, parce qu'au final, c'est vrai qu'elle a un visage de poupée.
Oui, mais justement, le propos, je trouve ça hyper simpliste.
Mais bah non, c'est pas simpliste, parce qu'au final, ça, son visage là, où elle est absente de toute émotion, préfigure le visage de l'homme à la fin qui n'a plus d'émotion. Enfin, genre, c'est.
Mais sauf que le propos du film, c'est de nous dire qu'elle n'arrive plus à ne pas avoir d'émotion. Enfin, qu'elle n'y arrive pas. Et qu'elle aura toujours trop d'émotions. Elle est qualifiée comme ayant trop d'émotions. C'est ce qui est dit dans le scénario. Et je le vois pas, justement. Moi, je la vois comme quelqu'un d'extrêmement froid. Donc, ça, en fait, j'arrive pas à comprendre l'histoire qui m'est racontée. J'ai l'impression qu'elle éprouve déjà pas d'émotions. Je comprends pas pourquoi on la traite pour qu'elle éprouve plus d'émotions.
Mais parce que je trouve pas qu'on ait l'air.
Qu'on ait l'air d'avoir trop d'émotions.
Non, mais le cinéma est censé nous faire ressentir qu'elle a trop d'émotions. Mais enfin. Effectivement, oui, les émotions, on les montre pas.
Je trouve qu'il y a une espèce d'émotion et d'intériorité qui est assez contenue, mais en même temps, qui déborde à certains moments et que je trouve.
Non, mais en fait, cette intériorité, elle est vraiment traduite cinématographiquement par ce truc de l'angoisse permanente. Où c'est tes sens qui sont.
Oui, mais du coup, c'est juste l'angoisse, l'émotion dont on parle. Parce que tu disais que, en fait, c'est l'angoisse qui annihile les autres émotions, etc. Mais moi, les autres émotions, je les vois vraiment pas. Le frôlement de main dont tu parles, ça ne m'évoque. Enfin, quand moi, en tant que spectatrice, à zéro moment, j'éprouve ce qu'elle éprouve, elle. Elle reste complètement froide.
Tu ne t'identifies pas, Léa.
Mais au-delà du fait. Parce que je pense qu'on peut éprouver des émotions sans forcément s'identifier au personnage de l'œuvre. Je pense que ça doit être fondamental. Mais là, c'est juste que par la mise en scène et par ce récit qui m'en est fait, j'arrive pas à éprouver ça. Et justement, en fait, moi, dans ce film, ce que j'ai compris, c'est que la bête, c'était pas la peur des émotions. Parce que je trouve pas que ce film arrive vraiment à dire grand-chose sur les émotions, à part qu'il marche niveau thriller, donc bon, il y a juste la peur qui marche à la fin, mais enfin, comme au début, j'arrive pas... En fait, comme ce film est censé nous présenter une situation initiale où elle a beaucoup d'émotions, et à la fin, on veut lui faire avoir pas d'émotions, mais qu'au début, j'ai l'impression qu'elle a déjà pas d'émotions, je vois pas le fil narratif de la chose. Pour moi, la bête, et on revient, selon moi, sexiste du film, pour moi, la bête, c'est juste lui. Quoi ? Bah, parce qu'il la bute à chaque fois, enfin...
Bah non, il l'a bute dans la deuxième...
Dans la deuxième histoire, dans la première, il est un peu genre, enfin un peu mystérieux. Il cherche à l'éloigner de son mari et genre, et tu sens que, enfin je sais pas, moi justement j'avais l'impression qu'il y avait plutôt quelque chose d'enfoui en lui. Moi c'est comme ça que j'ai lu.
Mais moi je trouve que justement, en fait ce personnage masculin, il est assez secondaire et en fait je pense qu'au final c'est plus un, c'est là où je dirais pas du tout que le film est sexiste parce que je pense que c'est plus vraiment un médium pour parler de ses émotions, enfin, ou plutôt de sa peur des émotions à elle, et que la bête,
enfin cette idée de la bête là, elle est, enfin par rapport, moi aussi je compare par rapport à la bête dans la jungle que j'avais aussi vu cet été, où là la bête elle avait un côté, enfin symboliquement hyper lourd, hyper lourd en fait.
J'ai vraiment pas vu.
Non mais spoiler parce que je pense que personne.
Non mais de toute façon je pense en fait on va pouvoir faire des spoilers à partout de cette chronique.
Voilà, c'est la mort et du coup t'es un peu en mode bon c'est quand même un petit peu attendu, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu voilà.
Oui, c'est vrai. En fait oui le film qu'on a vu cet été c'est vraiment, enfin c'est vraiment expliqué. Il y a la bête, on la cherche pendant une heure et demie. Ah, la bête, elle arrive.
Okay. En fait, c'est la mort, ouais, parce que on meurt.
Alors que là, il y a quand même. Enfin, c'est là, je trouve que ça te donne vraiment suggéré, le vertige, quoi. Parce que c'est.
Oui,
c'est,
tu sais pas exactement. Très
bah, tu le sais si. Tu le sais tout de suite que c'est le fait d'aimer qui lui fait peur.
Mais c'est pas tant le fait d'aimer c'est... que.
Le fait de ressentir des émotions.
C'est aussi autre chose. Oui, ouais, c'est, mais c'est ça et c'est tout à la
fois. C'est insaisissable, quoi.
Oui, parce que c'est pas filmé. Ou mal filmé. Mais non, mais moi je vais rejoindre. Je suis désolé.
Et je me dis que je sais, mais sans savoir. Non, mais, et c'est ça qui est beau. Quoi. Non,
mais après, c'est un truc subjectif. C'est je pense qu'on ne tombera pas d'accord. Moi, je vais être d'accord avec Juliette sur ce point-là. Je pense que faire un film où la peur des émotions sont centrales et que tu filmes pas les émotions, et je suis désolé, c'est le film ne met pas en emphase avec les personnages. C'est-à-dire qu'il a une distance constante avec les personnages, qu'il a pris une actrice, on se moque de Léa Seydoux, mais jouer la froideur, c'est quand même jouer quelque chose, et il ne l'a pas prise au hasard. C'est-à-dire qu'il voulait prendre une actrice qui s'est très bien jouée, la retenue, le fait de cacher ses émotions. Sauf que si on doit avoir peur de l'émotion, il faut qu'on puisse sentir qu'elle peut surgir. Il faut qu'on puisse sentir son danger. Or, on ne comprend pas à chaque fois, pourquoi il y a un danger. Et moi, c'est là où j'avais eu un problème avec le côté des incels. Les incels, c'est pas qu'ils ont peur de aimer, que ça va pas. C'est pas parce que les incels, ils sont biberonnés à une idéologie d'extrême droite et le fait qu'ils ne trouvent pas de compagne, c'est déjà parce que c'est des gros couillons et que en plus, ça s'inscrit dans un projet idéologique qui est plus large. Et je pense pas que Bonello est fondamentalement sexiste. C'est juste que prendre les incels comme étant simplement des gens qui ont peur d'aimer, je trouvais que c'était maladroit. Et encore une fois, moi, et je pense qu'on c'est un débat sans fin, donc ça, je pense que ça ne sert à rien qu'on s'éternise dessus. Mais là où vous voyez peut-être des bribes d'émotions et tout ça, moi, je vois un film qui aurait pu, en fait, aller beaucoup plus loin dans les émotions et aller être beaucoup plus franco dedans pour montrer en quoi ça fait peur des émotions. Parce qu'au final, si tu vois des personnages qui ne vivent pas d'émotions, bah, au final, ils n'ont pas grand-chose à avoir peur.
Ça n'aurait pas eu d'intérêt parce que la peur de l'émotion, elle est beaucoup plus forte que la réalité de l'émotion en elle-même.
Mais pour avoir peur de quelque chose, il faut bien qu'il soit là ou que tu l'aies déjà expliqué.
De se faire un baiser, on a dit, ah ben en fait, t'es terrible de d'aimer, en fait, t'es trop bien d'aimer. Personne ne comprend pas le film. Mais il y a des bribes d'émotions, mais justement, elles ne sont pas assouvies parce que ça fait peur et parce que cette peur-là, elle est hyper angoissante. Et après, enfin, je veux dire, nos angoisses, elles ont tous comme fondement ça. Je veux dire, on est angoissé par quelque chose et au final, quand ça arrive, on est presque soulagé que ça arrive parce qu'au final,
c'est pas
si terrible la réalité. Enfin, la vie, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, on s'en fait un truc de malade tous, mais je veux dire, c'est pas un truc
voilà.
Terrible. Voilà. La citation, c'est un truc de malade, mais c'est pas si terrible.
Non, mais les émotions. Enfin, je veux dire, c'est beau, on est d'accord tous.
Mais t'es en train de me convaincre, Costal.
Il est fort, hein, il est fort.
Non, mais genre, ce qu'on s'en fait est beaucoup plus impressionnant que la réalité des choses. Et du coup, c'est sur ça aussi qu'est le film. Ça n'aurait, je pense, eu aucun intérêt si les émotions allaient vraiment jusqu'au bout. Mais il y a quand même des bribes. Il y a des mains qui se frôlent, il y a des pleurs sur sa joue, elles sont pas nombreuses, mais elles sont assez rares, nombreuses pour que ça donne son sens au film.
Oui, mais pour avoir peur des émotions, il faut les avoir ressenties au moins une fois et avoir ressenti ce vertige-là.
Mais ça, on n'a pas besoin de le savoir,
ça. Non, c'est la peur du cancer. Enfin, on a tous peur de trucs qui
sont... Non, en termes d'émotions, je veux dire. Pourquoi t'aurais peur des émotions si t'en as jamais éprouvé?
Mais ils en ont pas jamais éprouvé. Enfin, je veux dire, en fait,
on
les connaît pas, mais je veux dire, chaque être humain a forcément ressenti des émotions dans sa vie, qui que tu sois.
Oui, mais du coup, nous, on comprend pas pourquoi elle en a peur. Elle est juste dans un état constant de peur. Elle est juste dans un état constant de peur.
C'est que cette peur, elle nous est pas acquise dès qu'on est. Mais je veux dire, cette peur aussi, c'est l'histoire de centaines de siècles avant nous. Je veux dire, on est juste. Enfin, j'en sais rien, mais je veux dire.
Mais la peur, elle est pas rationnelle. De toute façon, puis,
non, mais je dis pas du tout qu'elle est rationnelle.
Qu'elle aille dans ses traumas profonds, machin. Pour,
genre.
Parce que le film, c'est un peu ça. Alors, elle va dans ses traumas profonds pour guérir sa peur.
Oui.
Parce qu'en fait, cette peur-là, elle n'a pas de fondement rationnel.
Mais c'est pas nécessairement pour guérir sa peur, c'est pour lui enlever ses émotions que l'IA, ils les font.
Oui, mais non, mais je dis, ah là là, l'intelligence artificielle, elle dit, ah là là, t'as une angoisse vraiment très forte, on va t'annihiler ça avec des putains de trucs de piqûres dans l'oreille. Bref.
Ouais.
Mais genre, c'est parce que c'est son angoisse, elle est très très forte.
Oui, mais enfin, oui, mais justement, enfin, en fait, pour que ce récit fasse sens à mes yeux, c'est juste que, mais on n'arrivera pas à ce.
Là, on se répète, c'est nul.
Oui, 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 mais juste si je peux rajouter un mot de la fin, je n'arrive pas à voir George MacKay en incel. Enfin, pardon, mais le gars est, comme Arthur l'a dit, extrêmement beau. Enfin, je veux dire, je ne veux pas savoir que genre à 30 ans. Enfin, je veux pas savoir qu'à 30 ans, genre, il aille parler à une fille et une fille, genre juste lui tourne le dos. Enfin.
Mais moi, je pense qu'en fait, juste, il parle pas à des filles, en fait. Sinon, ça aurait marché, mais parce que la peur, elle est.
Ah oui, du coup, la peur depuis l'enfance. Moi, par exemple,
c'est ça, j'ai peur aux filles, pardon.
Mais oui, c'est ça. J'utilise mon pouvoir de présentatrice pour dire que La Bête, c'est quand même super bien et qu'il faut aller le voir malgré tout le mal quand on dit Arthur et Juliette, qui sont vraiment des êtres glacieux. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et surtout merci aux personnes qui ont contribué avec moult émotions à ces débats enflammés. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir.